Michel Imbert, bonjour.
Bonjour Françoise.
Alors, par quel hasard du destin avez-vous rencontré l'Asie et particulièrement la Chine?
Ah, c'est une longue histoire qui remonte à beaucoup d'années. En fait, je travaillais pour l'Air Liquide et un beau jour, en 1989, mon directeur des ressources humaines m'a dit: Ah, au fait, Michel, vous avez postulé l'Asie, je crois. Alors, pourquoi pas Taïwan? Alors, j'ai été évidemment, immédiatement, j'ai été surpris, mais j'ai été également enthousiasmé. Je lui ai dit, demain matin. Il m'a dit, bon, ben, venez dans mon bureau, demain, justement, et puis on va discuter de ça, mais voilà, vous êtes partant pour Taïwan, pour notre nouvelle co-entreprise qui est en développement et où vous serez le directeur commercial et marketing. Et voilà comment l'aventure a commencé. C'était au mois de mars 1989. Je suis arrivé à Taipei dans cette co-entreprise en juin 89. Et depuis juin 89, je n'ai plus jamais quitté vraiment l'Asie.
Alors, Taïwan, c'est une chose, mais la République populaire de Chine, c'était après.
Oui, c'est dans le prolongement. Je suis resté 5 ans à Taïwan pour le compte de ma société. Ensuite, ma société, l'Air Liquide, m'a envoyé en Corée du Sud dans le même modèle, avec, c'est également une co-entreprise, et là où je suis resté plus de 3 ans pour m'occuper du développement. Et puis ensuite, je suis allé en Chine continentale et dans le Guangdong, à Foshan, et puis ensuite enfin, beaucoup de voyages, bien entendu, constamment en Asie du Nord-Est et en Asie du Sud-Est, bien entendu, et puis ensuite à Shanghai et à Pékin. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce pays que vous connaissez si bien ?
Mais il y a l'Asie et puis il y a la Chine. C'est une grande question en fait. Hein. Jusqu'à présent, dans ma vie, avant 1989, j'étais vraiment occidental. C'est-à-dire qu'à l'âge de 23 ans, à la fin de mes études à ESSEC, j'avais été immédiatement engagé. Pour faire mon stage de fin d'études chez L'Oréal, à Buenos Aires. Donc, à l'époque, j'ai passé beaucoup de temps en Amérique du Sud, évidemment en Argentine, mais également au Pérou, en Bolivie, dans le sud du Brésil, etc. Et après, j'ai visité l'Amérique centrale et beaucoup plus tard, j'ai été également. Je m'occupais des achats d'hélium pour le compte du groupe Air Liquide à Amarillo dans le Texas, et j'allais donc j'allais aux États-Unis. Donc j'avais également toutes mes positions carboxyque française, groupe Air Liquide, Air Liquide en Europe. Cela fait que j'étais très très européen et occidental. C'est la raison pour laquelle j'avais dit un beau jour aux ressources humaines que je demandais ma mobilité, un jour ou l'autre, si l'occasion se présentait, de l'autre côté, en Asie. Et c'est comme ça que j'ai démarré à Taïwan et qu'ensuite donc, j'ai continué à persévérer en Asie constamment. Alors, ce qui m'attire spécialement en Asie, c'est que, et notamment en Chine, c'est que nous avons affaire à un autre monde qui n'a absolument rien à voir avec l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord ou l'Europe, qui sont des pays européens finalement. Et là on plonge dans un univers spécifique. Quand je suis arrivé en 1989, quand l'avion est arrivé à Hong Kong sur la route de Taipei, j'ai été absolument ébloui par Hong Kong, mais fasciné. Et je me suis dit, je vais rester là, absolument.
Vous avez senti que c'était là votre vie?
C'était, j'ai senti que c'était là une nouvelle part de ma vie, parce que j'étais très très content en Amérique du Sud aussi, hein, bien sûr. Mais c'était une part étrange, tout à fait étrange, tout à fait étrangère. Et c'est ça qui m'intéressait.
Vous vouliez découvrir l'autre face de la Terre.
Voilà, exactement. C'est exactement ça.
Alors, quel souvenir, justement, avez-vous de la Chine que vous avez découvert en 1996, la Chine continentale ? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu nostalgique de cette Chine d'antan ?
Ah bien, finalement, quand je repense à la Chine d'avant l'an 2000, et maintenant, et la Chine de maintenant, et bien sûr, ça n'a vraiment plus rien à voir. Les villes ont totalement changé. Et, avant, c'était vraiment ce qu'on appelait la vieille Chine. D'ailleurs, qu'on retrouve beaucoup dans Taipei, et dans le vieux Taipei, etc., qui est si attachant. Non, il est certain que moi-même et puis beaucoup de personnes, nous adorons la vieille Chine, justement, avec ses odeurs. Et avec cette vie en pyjama, etc., enfin, les bicyclettes partout, c'était fascinant. Maintenant, la Chine est devenue un pays extrêmement moderne, en tout cas sur toute la côte Est, et puis également dans des grandes villes de l'intérieur. Et il y a un cachet ancien qui a un peu disparu. Quoique, quand même, hein, heureusement, il reste quand même un certain nombre de routons, et puis à Pékin, Shanghai, et également à Yantai, où il y a un quartier préservé, d'ailleurs totalement préservé, entouré de murs, intouchable, où là, on retrouve la vieille, vieille Chine, hein, avec les cours carrés, avec les bicyclettes, les coiffeurs dans la rue. Les petits bars à matelots, c'est fascinant. Mais grosso modo, effectivement, maintenant, la Chine est devenue une puissance extrêmement moderne. Au point de vue autoroute, au point de vue infrastructure, etc., c'est extraordinaire.
Alors, comment a débuté votre histoire d'amour avec la ville de Yantai ?
Eh bien, tout simplement... Quand j'étais, c'est une histoire très 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 sympathique. Quand j'ai pris ma retraite à 65 ans en l'an 2000 des affaires habituelles, hein, industrielles et commerciales, j'ai été immédiatement, je dirais, happé par le gouvernement du Shandong, parce que j'avais rencontré plusieurs fois des gouverneurs, hein, de province, et notamment celui du Shandong, vice-gouverneur du Shandong, m'avait dit: Michel Humbert, si vous êtes libre un jour, ou quand vous êtes libre un jour, dites-le moi. Et là, justement, en l'an 2000, fin 99, début 2000, j'ai eu l'occasion de lui dire, je lui ai dit: tiens, ben bien sûr, j'ai 65 ans maintenant, bientôt le coup près. Et il m'a dit: bon, pourquoi ne pas travailler pour moi ? Et je lui ai dit, comme j'avais dit à l'avance très souvent dans ma vie, demain matin, il m'a dit: bon, très très bien, je m'en occupe. Et il a adressé à ces villes administrées, c'est-à-dire Yantai, Qingdao, Weihai, Weifang, etc., Jinan, une proposition que je sois leur conseiller. Et c'est Yantai, la première ville, qui a dit: oui, qu'ils viennent tout de suite, etc., etc. Et donc, j'ai débarqué à Yantai le 26 juin 2000, et j'ai été accueilli, donc, vraiment les bras ouverts, par le gouvernement fédéral, puisque Yantai, c'est une fédération de nombreux districts et de comtés. J'étais reçu par le gouvernement fédéral avec vraiment beaucoup, beaucoup d'hospitalité. Et voilà, ben voilà, l'histoire a commencé le 26 juin 2000, et après a continué constamment au fil des années, et de façon extrêmement, extrêmement rapide, je dois dire, hein. Et extrêmement excitante. Hein. Et donc, voilà, j'y suis toujours.
Effectivement, c'est une histoire qui continue encore aujourd'hui. Alors, quel rôle avez-vous aujourd'hui à Yantai, donc cette ville dont vous êtes citoyen d'honneur, ce qui est très rare pour un étranger?
Oui, je suis citoyen d'honneur de Yantai et citoyen d'honneur du Shandong, ce qui est également encore plus rare. De Yantai, effectivement, on est très très peu nombreux à être citoyen d'honneur également. Eh bien, ma vie de tous les jours, vous voulez dire?
Votre vie professionnelle.
Professionnelle, oui, oui, professionnelle. Eh bien, ma vie professionnelle, c'est que mon rôle, en fait, c'est de promouvoir les atouts de l'agglomération, la grande agglomération de Yantai, dans tous ses domaines. C'est-à-dire, mon rôle, c'est de promouvoir les avantages de Yantai auprès de mes contacts français, européens, américains, et pourquoi pas coréens, j'en ai encore, bien sûr, et autres, et les faire venir dans l'agglomération, et après les présenter à mes collègues chinois, qu'ils les prennent en main pour leur faire visiter tel ou tel district, tel ou tel comté, etc., etc., compte tenu de leur discipline. Voilà, mon rôle principal, c'est que je suis en quelque sorte un genre d'ambassadeur. D'ailleurs, ils m'appellent la carte de visite de Yantai, un ambassadeur de Yantai vis-à-vis de tous mes contacts possibles, que ce soit d'autres ambassades, que ce soit des chambres de commerce, que ce soit Business France, et des consultants, etc., etc., français, européens, italiens, etc., et puis également partout où j'ai des contacts, pour les amener dans le Yantai pour investir, faire du business, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire aucun domaine ne nous est étranger. On s'occupe des usines, évidemment, mais pas simplement. On s'occupe des hôtels, on s'occupe des services, des Français qui veulent créer une boulangerie, une charcuterie actuellement, d'ailleurs. Et il y a des nouveaux secteurs très importants, par exemple, qui sont les services pour les vieillards aussi, et les services dans les hôpitaux. On s'occupe de tout.
Alors justement, quels sont les atouts de Yantai pour les investisseurs étrangers, et notamment français?
Ça dépend de la discipline des investisseurs, mais un très grand atout de Yantai. Yantai, c'est immense, hein, ça fait 14 000 km², c'est plus grand que l'île de France. Hein. Et Yantai Ouest, c'est une partie où il y a, où tous les équipementiers automobiles français sont arrivés, parce que nous avons une usine énorme à Yantai, qui est General Motors, qui sort 700 à 800 000 à 1 million de voitures par an. Chaque voiture a besoin de 4 400 pièces, les Buick et les Chevrolet, etc. Donc, et General Motors demande que tous les équipementiers soient à proximité de cette immense usine. Alors, les Français comme Valeo, Plastic Omnium, Faurecia, Amis Extrusion, Mecaplast, je vous l'ai peut-être déjà dit, et différents autres grands équipementiers français, ils sont tous là. Et pour service, General Motors. Et puis alors, les équipementiers des équipementiers, les sous-traitants des sous-traitants sont tous là. Ça fait qu'on a des, je dirais, des dizaines d'usines d'obédience française qui sont là, sans compter bien sûr les Italiens, les Coréens, les Américains évidemment de General, de Johnson Control, etc., Timken, etc. Donc Yantai West, c'est une capitale de l'automobile, des équipements automobiles pour servir les services d'assemblage de General Motors. Ça c'est Yantai West. Après, vous avez Yantai Est. Yantai Est, c'est une zone d'innovation et de high-tech. Tout ce qui est high-tech, innovation, il y a des laboratoires à n'en plus finir. Tout ça, évidemment, c'est tout neuf. Hein. Et que ce soit Yantai Ouest, Yantai Est, c'est le long de la mer jaune. Hein. Donc, la qualité de vie est vraiment très, très intéressante. Et puis alors, le troisième avantage de Yantai, c'est que vous avez un couloir central qui s'appelle Panlai, Qixia et Laiyang, qui est un territoire dédié aux vignes, à l'agriculture, etc., etc. Et ça c'est une des mamelles de Yantai, de grande, grande richesse, puisque Yantai est la première région viticole de Chine. Alors, bien sûr, nous avons les fabricants de bouchons, comme Damtos, les Français, ils y sont tous, les fabricants de barriques, etc., etc., qui sont là.
Et c'est là qu'on trouve tous les Bordelais.
C'est là où on trouve les Bordelais, évidemment, sauf ceux qui sont déjà, sauf Chinois qui sont déjà allés à Bordeaux. Oui.
Alors, vous avez dit que vous vous occupiez absolument de tout, et c'est tout à fait vrai, parce que vous avez cofondé le Cercle francophone de Yantai, ainsi que 3 bibliothèques françaises, qui portent le nom de Chantal Imbert. Alors, vous êtes un passeur de la culture française en Chine, et pas seulement de l'économie.
Ah oui, oui, absolument. D'ailleurs, l'économie, la culture et l'éducation, c'est le même combat. Hein. On est sur le même bateau, de toute façon. Parce que jamais un investisseur n'investira à Yantai s'il n'y a pas à Yantai des universités, des collèges, des hôpitaux à la hauteur et également des bibliothèques. Et ben, quand un investisseur vient me voir pour la première fois, la première question qu'il me pose, ça n'a rien à voir avec l'économie, justement. C'est quid de l'éducation, quid des enfants, que va faire ma femme toute la journée? Et quid des loisirs et qu'est-ce que l'on fait dans le long de la mer et dans les montagnes, etc. etc.
Ça, la vie quotidienne.
La vie quotidienne, etc. Et alors donc je leur réponds justement que ça va très bien. Tout ça, nous avons, hein, de toute façon.
Et vous avez contribué à le développer.
Oui, bien entendu. Alors je suis vraiment très, très, très content d'avoir créé ces 3 bibliothèques françaises Chantal Imbert, parce que c'est vraiment une réalisation qui est importante. La première bibliothèque compte maintenant 600 livres, qui sont des livres qui appartenaient à ma chère épouse, qu'elle avait lu et que j'ai donné. La deuxième bibliothèque comporte plus de 500 livres, et la troisième, qui est de création récente, comporte environ 300 livres. Cela fait qu'il y a, à Yantai, il y a 1500 livres classiques français, qui sont à disposition des Français, des étudiants et des professeurs. Et il n'y a pas beaucoup de villes en Chine qui ont 1500 livres à disposition, à part peut-être Pékin ou Shanghai, dans 3 bibliothèques à disposition du public bénévolement.
Et vous travaillez avec l'Alliance française?
Oui, alors bien sûr, bien entendu, je n'ai que des amis à l'Alliance française. Et nous avons à Yantai un département de français qui est chinois, mais qui a 500 élèves chinois qui apprennent le français, avec 12 professeurs. Et nous avons un centre de français qui travaille sous l'égide de l'Alliance française et sous l'égide des Pays de la Loire, depuis 2010.
Alors, quelle est l'image de la France en Chine aujourd'hui, vue de Yantai?
L'image de la France en Chine est très bonne, est très très bonne, très sympathique, je dirais. Hein. Très bonne, très sympathique, bien entendu. Mes amis chinois s'intéressent énormément à la culture française. J'ai d'ailleurs un certain nombre de collègues chinois qui parlent français, qui ont appris le français, qui parlent français. Par l'anglais, par le français, d'autres par l'allemand d'ailleurs également, et c'est quelque chose qui est vraiment très 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 intéressant. Maintenant, la France a également une très très belle image, mais c'est bien connu, des arts, des arts de la table et des arts en général, et du luxe, etc. Une image extraordinaire. Il y a également, on sait que la France est bonne, très bonne au point de vue scientifique, avec des chercheurs de très haut niveau. La France, globalement, a une très bonne image. Hein. Je n'ai jamais eu de problème concernant avec mes investisseurs français ou européens, mais spécialement français, de venir à Yantai et d'être, enfin évidemment, jamais mal accueilli, évidemment. Hein. Ouais, les Chinois sont extrêmement hospitaliers de toute manière.
Hein. Oui, tout à fait. Alors justement, quel conseil avez-vous l'habitude de donner aux entrepreneurs français qui viennent à Yantai?
Bien, la première chose que je leur dis, c'est d'être extrêmement modeste et d'être d'écouter et de ne pas la ramener, comme on dit en français. Lors d'un premier repas, d'un premier contact, ne jamais parler d'affaires, simplement répondre aux questions que les Chinois vont leur poser sur leurs hobbies, ce qu'ils aiment faire, les âges des enfants et du small talk, comme on dit, pendant un repas complet, quelquefois même deux repas. Attendez le troisième jour ou le deuxième jour pour sortir vos papiers. Ne faites jamais comme ceux que j'avais rencontrés une fois, qui au premier repas, au bout de 10 minutes, en disant « Maintenant, si on passait aux choses sérieuses, évidemment, catastrophe. Hein. »
Mais ça, c'est pas chinois, ça.
Non, catastrophe. Hein. Non, il faut arriver modestement, il faut écouter, il faut regarder, il faut s'imprégner de l'endroit, de la culture. Et je leur dis toujours, si vous voulez réussir ici, il faut y rester. Il ne faut pas venir pendant une semaine et puis au bout de même pas une semaine, 3 jours, et puis dire ah non, maintenant il est vendredi, on rentre à Paris ou on rentre en France parce que c'est le week-end, et après on les revoit pas pendant 3 mois. Ça c'est foutu, c'est de l'argent perdu. Hein. Non, il faut rester sur place, il faut participer à nos dîners, participer au cercle francophone, participer à nos dîners western, s'imprégner de parce que là il y a toujours plein d'amis chinois qui sont là, bien entendu, et vivre dans la communauté, et là vous allez réussir votre installation.
Il faut développer son réseau, bien
voilà,
évidemment.
Développer son réseau, c'est ça.
Alors vous avez dit dans un article en 2014 que les trois mots pour définir la Chine étaient ambition, patriotisme et fierté nationale. Est-ce que vous pouvez développer ?
Ah oui, c'est vrai. Ambition, patriotisme et fierté nationale. C'est vraiment le moteur de mes amis chinois tous les jours. Ils travaillent bien parce qu'ils veulent que la Chine réussisse. Ils veulent que eux réussissent pour eux-mêmes, pour leur famille évidemment, parce que la famille c'est extrêmement important. Mais ça c'est le même bateau, la famille et la Chine. Donc ce qu'ils veulent c'est réussir et faire réussir leur pays. Ce que j'ai dit là, ces trois mots, ça reste 100% valable.
Même en 2017. Alors justement, avec cette longue expérience en Chine, quel regard jetez-vous sur la Chine de 2017, celle dont la croissance réduit comme peau de chagrin et qui doit faire face à l'Amérique de Donald Trump ?
Non mais je pense que l'expansion ne se réduit pas comme peau de chagrin. Parce que d'abord, c'était à 10 pendant des années. Bon, maintenant, c'est un peu cool. Hein. Bon, maintenant, à 6, 6, 2, 6, 3, 6, 5, ça reste tout à fait valable. Hein,
mais ce n'est pas aussi exponentiel qu'avant.
Non, ce n'est pas aussi exponentiel, mais c'est bien, vraiment. C'est ce qu'on appelle un soft landing. Hein. Ça ne peut pas continuer à 10 tout le temps de toute façon. Hein. Et puis il y a le fait également que le marché intérieur qui est très poussé, le marché intérieur est colossal. Je vois mes amis chinois, ils n'arrêtent pas d'acheter. Tout sur Internet d'abord, hein, mais ils n'arrêtent pas d'acheter. On reçoit des colis dans nos bureaux, etc., constamment, mais de tout, les vêtements, même des choses toutes petites, même des ou des grandes choses, des c'est fou. Hein. Donc le marché intérieur, qui est d'ailleurs très poussé par le gouvernement, est en pleine expansion. Il y a un marché extraordinaire, n'est-ce pas ? Et maintenant, ce marché en plus se déplace, parce qu'avant ce n'était que la côte, c'était que la côte est, et puis également quelques villes centrales. Maintenant, de plus en plus, des villes moyennes de des villes moyennes de l'intérieur se développent de façon considérable. Et ce sont des nouveaux marchés. Hein. Non, je suis positif sur le développement continuel, pas à la vitesse de 10% qui était intenable de toute façon à long terme, mais c'est un processus qui marche bien, hein, de toute façon.
Alors, quid de la Chine face à l'Amérique ?
Alors, ben ça, je vous dirais que c'est vraiment c'est quelque chose que personne ne sait. Je crois même que les principaux protagonistes sont également, ils ne savent pas non plus également sur quel pied danser. Hein. Non, là, vraiment, j'ai pas d'idée là-dessus.
Vous êtes comme nous tous, en fait.
Oui, exactement.
Alors Michel Imbert, vous ne vous contentez pas d'être homme d'affaires et diplomate, vous êtes aussi poète et auteur, et vous écrivez depuis longtemps. D'où vous vient ce besoin d'écriture dans votre vie d'homme d'affaires ?
J'ai toujours aimé écrire, en fait, depuis toujours. J'ai écrit mes premiers poèmes, comme tout le monde, vers 15 ans, mais j'ai persévéré. J'ai écrit des poèmes dans les revues de l'époque, qui s'appelait Séquence, par exemple. Et puis après, j'ai écrit différents recueils de poèmes au fil des années. Et puis quelques récits également. Mais j'ai toujours aimé écrire et également aimé publier. J'ai eu la chance d'avoir dans ma famille des peintres du côté de ma mère et également un académicien français, le révérend père Alphonse Gratry. Et j'ai beaucoup vécu dans une atmosphère, je dirais, artistique en quelque sorte. Alors quand j'étais adolescent, j'ai toujours aimé lire beaucoup, hein, beaucoup lire, beaucoup écrire, et puis beaucoup communiquer. En fait, j'aime beaucoup communiquer. C'est la raison pour laquelle j'ai cofondé le Cercle francophone de Yantai, puisqu'on n'arrête pas de communiquer avec plus de 3000 personnes maintenant.
Ça marche très très bien. Alors justement, vous avez publié très récemment Impressions asiatiques. Et on revient de ce fait à la ville de Yantai, puisque la moitié du livre lui est consacrée. Et moi, je me demandais d'où vient le nom de cette ville, Yantai.
Yantai, c'est son nom actuel. Yen veut dire fumée, et Tai veut dire la plateforme, colline, etc. Parce que Yantai, qui s'appelait Zhefu, hein, autrefois, et même Dojo avant, mais enfin le nom principal c'était Zhefu, quand dans les livres d'histoire, en 1860 à peu près, on voit Zhefu partout, on ne voit pas du tout Yantai. Yantai a été créé ensuite. Mais en tout cas, le Zhefu était, il y a toujours donc à Zhefu, parce que Zhefu est maintenant un quartier. Le quartier central d'ailleurs, un district central. Il y a une colline dans la baie de Zhefu où il y a maintenant un phare, mais autrefois, enfin peut-être il y a 700 ou 800 ans, il y avait les peuplades qui peuplaient cet endroit, faisaient des fumées, des feux des fumées, soit pour avertir qu'il y avait danger, puisqu'en fait la côte est extrêmement escarpée là, soit peut-être pour attirer les bateaux pour enfin soyons bons, c'était pour éviter les accidents,
comme chez nous en Bretagne.
Oui, voilà.
Voilà, c'est à peu près la même chose.
Yen, c'est la fumée, le feu, la fumée, et Tai, c'est la plateforme, là, comme Taipei, hein, Tai toujours. Taï, c'est la plateforme.
Alors, si on part en promenade avec vous à Yantai, et particulièrement dans la vieille ville, que verrons-nous ?
Eh bien, vous verrez, dans la vieille ville, vous verrez donc ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des vieux quartiers qui sont vraiment très très intéressants. Il y a un très très vieux quartier alors, qui est protégé, comme je le disais, mais sinon, il y a tout un quartier dont les maisons sont datent toutes de 1860, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, etc., qui sont absolument bien sûr d'époque, et qui sont toutes protégées. Certains sont devenus des écoles, d'autres sont devenus des musées, d'autres des galeries de tableaux, mais c'est vraiment une ambiance très, 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 très sympathique. Et également, vous allez tomber sur le fameux hôpital de l'amitié franco-chinoise, qui a été un dispensaire français, qui a été bâti par des sœurs franciscaines françaises en 1860, et qui s'appelait à l'époque Hôpital de l'amitié franco-chinoise. Et donc, en 1860, et maintenant en 2017, cette dispensaire est devenue une tour de 35 étages avec 1300 lits. Et ils construisent actuellement un nouvel hôpital, mais c'est toujours Hôpital de l'amitié franco-chinoise. Et c'est le seul hôpital de Chine où les papiers sont faits en chinois et en français.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des médecins français qui y travaillent ?
Oui, parce que cet hôpital a été réinauguré par M. l'ambassadeur Hervé Latsous en 2010, et conjointement avec le CHU de Nantes et le CHU de Saint-Malo. Donc il y a des docteurs de Nantes et de Saint-Malo qui viennent et des échanges constants entre ces trois pôles.
D'accord. Alors, dans votre livre, vous parlez aussi de Bing Xin, une écrivaine célèbre en Chine qui est née à Yantai.
Oui, c'est ça. Elle est née à Yantai, elle a passé sa vie en voyage. Elle me rappelle d'ailleurs beaucoup, elle ressemble beaucoup cet écrivain qui vivait aux États-Unis, qui a écrit L'œuvre noire et puis...
Marguerite Yourcenar.
Marguerite Yourcenar. Elle lui ressemble beaucoup. Et c'est le même profil et c'est le même style de personne et de personnage. Donc cette écrivaine a énormément écrit sur Yantai et elle adorait les roses. Et actuellement, sa maison est préservée, bien entendu, à Yantai. Elle a une statue extraordinaire, extrêmement expressive, qui trône dans son jardin, entourée de milliers de roses. Et ça, face à la baie de Jefou, face à la mer, c'est merveilleux.
Oui, vous nous donnez envie d'y aller, du coup. Ah, ouais. Alors, vous consacrez un chapitre intéressant à la déesse Matsu. Alors, un peu d'histoire sur cette déesse que j'ai découverte.
Eh bien, la déesse Matsu, en fait... elle a été déifiée. En fait, c'est en 1300 et des poussières. C'était une jeune fille extrêmement méritante qui a passé sa courte vie à aider les habitants du Fujian qui étaient extrêmement pauvres. Et qui a dédié sa courte vie, puisqu'elle est décédée dès l'âge de 27 ans. Mais sa réputation a grandi de telle façon, non seulement dans le Fujian, mais dans le Guangdong, dans le sud de la Chine, à Taïwan, et grâce aux marchands qui remontaient dans le nord, également à Yantai, où elle a deux statues, elle a une statue dans un temple et une statue face à la mer de 5 mètres de haut, toute blanche, magnifique. Donc cette jeune fille a été totalement déifiée peu après sa mort et son culte n'a fait que progresser constamment. Et encore maintenant, il y a des processions Elle est la patronne des marchands, des navigateurs, des pêcheurs, etc., qui lui vouent un culte extraordinaire, depuis Yantai jusqu'à Taïwan, en passant par le Fujian. Hein. La déesse Matsu est vraiment une déesse, mais issue de la mortalité, hein, de l'espèce humaine. Hein.
Un petit peu comme la mythologie grecque, finalement.
Ouais.
Alors à Yantai, vous ne faites pas qu'explorer les lieux, vous avez par exemple fondé la première université internationale du troisième âge en Chine.
Oui, non, ça n'est pas moi. Non, ça n'est pas moi.
Vous l'avez cofondé.
Non, même pas cofondé. Non, c'est un universitaire de Toulouse qui est très ami avec notre ami Édouard Cointreau, qui a installé dans Yantai West, à Kafachu, une université du troisième âge qui était l'image de ce que ce monsieur, que ce professeur Velas a fait à Toulouse justement. Et c'est une très très bonne idée parce que il y a énormément de personnes âgées maintenant qui sont relativement solitaires puisque les enfants vivent, travaillent, etc.
Et ils prennent leur retraite tôt, les Chinois.
Ils prennent leur retraite tôt, c'est ça. Mais bien entendu, ils restent dans la mouvance hein, de leur ancienne carrière. Je vois dans nos bureaux, je vois assez souvent des personnes qui sont à la retraite depuis 20 ans, mais qui viennent faire un tour, qui se baladent, et tout le monde les respecte. Alors ça, c'est quelque chose qui est formidable en Chine, c'est le respect que l'on a pour les personnes âgées, les personnes d'âge. Ils sont vraiment... Ils viennent dans nos bureaux, ils s'installent là, dans leur bureau où ils étaient il y a 20 ans, mais ils sont accueillis avec des grands sourires, et c'est...
Et tout le monde trouve ça normal.
Oui, je trouve ça merveilleux. Et alors, donc, cette université du troisième âge, c'est justement quelque chose qui rentre tout à fait dans ce cadre hein, d'affection hein, pour les personnes âgées.
Alors ici, vous nous emmeniez faire une petite visite à l'école de sitar, au Gucheng, que l'on trouve à Yantai.
Oui, ça, bien sûr. C'est délicieux de voir toutes ces petites filles qui sont grandes comme trois pommes et qui sont le long de ces instruments qui font 2-3 mètres de long et qui jouent avec une passion extraordinaire. Et c'est vraiment des moments vraiment délicieux.
Alors, un mot sur peut-être Weihai, que vous surnommez la Bretagne chinoise. Si on sort un peu de Yantai, vous vous promenez et vous nous emmenez effectivement un peu dans le Shandong. Et dans le Shandong, il y a Weihai.
Oui, Weihai, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle la Bretagne chinoise. D'ailleurs, il y a 200 ans, Yantai et Weihai étaient une seule agglomération, qui était immense, c'était effectivement la Bretagne chinoise. Alors maintenant, entre l'est de Yantai et Weihai, il y a environ 60 km, pas plus. Hein. Mais après, vous continuez sur environ 200 ou 300 km et vous allez au bout du bout du bout du Shandong, c'est-à-dire juste en face de la Corée, n'est-ce pas? Et Weihai, c'est une côte tout à fait découpée qui rappelle absolument la Bretagne française, hein, comme les côtes d'Armor, et puis Ouessant, et puis toute la région de Quimper, etc. C'est magnifique.
Donc granitique, cette côte.
Granitique, oui.
Alors, cette province du Shandong, il ne faut peut-être pas oublier qu'on peut aller retrouver les traces de Confucius et de Mencius.
Le Shandong est une province... Qui demanderait à être plus connu de la part des Français, qui trop souvent vont à Pékin, vont à Shanghai, vont à Canton, vont à Hong Kong et partent. Alors que le Shandong, d'abord, c'est la troisième province de Chine au point de vue PIB. Deuxièmement, c'est un État. Alors, il y a 100 millions d'habitants. Et il y a sur environ 250 000 km², il y a des villes immenses comme donc l'agglomération d'Yantai, Qingdao, Jinan, Weihai, Weifang, etc. Il y a une partie intérieure, il y a une partie côte, on a des milliers de kilomètres de côte, il y a une qualité de vie extraordinaire. L'industrie, l'agriculture, des forêts à n'en plus finir. Et puis donc Confucius, effectivement, qui est né juste dans le sud de Jinan. Et, et que l'on visite, enfin, qui a une aura extraordinaire, hein, bien entendu.
Mmh. Le fameux cimetière de la famille Confucius. Mmh. Alors, si vous deviez, en une seule phrase, donner envie aux auditeurs d'aller en Chine, que leur diriez-vous ?
Je leur dirais qu'ils vont trouver un pays très ancien et en même temps un pays très neuf. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'on voit l'évolution d'un pays millénaire et puis la pointe du modernisme en même temps. Et ça, par exemple, on voit des choses extraordinaires au point de vue architectural, par exemple, à Shanghai ou à Pékin, et même les nouvelles tours de Yantai également. Il y a une recherche architecturale. Et puis, à 100 mètres de là, vous allez tomber sur des routons, ou même d'avant les routons, qui remontent à disons, deux ou 300 ans. Et puis, bien sûr, si vous continuez plus loin, vous allez tomber sur Confucius, et puis les poètes de temps, et puis... Donc, c'est toute une histoire, hein. c'est un univers.
Différent. Donc un pays de contraste. Oui. Michel Imbert, merci.